Alors, nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur le thème Agile et logiciel libre, une rencontre sur les valeurs et principes, avec notre invité Alexis Monville. Alors, Alexis, est-ce que tu es bien avec nous ?
Oui, Frédéric. Bonjour à tous.
Bonjour Alexis. Alors, tu es en version courte membre de l'équipe de leadership de l'engineering chez Red Hat. Alors, j'ai demandé une petite présentation personnelle et peut-être de préciser un petit peu les mots leadership et engineering. Donc, je te laisse la parole, une petite présentation personnelle de ton parcours et de ton poste actuel.
Ouais, c'est toujours le risque de me laisser parler en français. parce que quand je vais parler en français, je vais toujours mettre des mots en anglais. Et en général, en France, ça passe bien, mais j'ai eu l'expérience au Québec de me faire reprendre plus d'une fois, donc c'était assez intéressant. Les gens pouvaient me donner des traductions à tous les mots que j'utilisais en anglais, c'était quand même merveilleux. Donc oui, désolé pour ça. J'ai du mal à traduire certaines choses parce qu'on n'utilise pas souvent les mots traduits. C'est quoi mon rôle actuel? Ben là, en fait, alors Red Hat, j'imagine que dans une émission comme ça,
tu peux repréciser rapidement ce qu'est Red Hat.
Ouais, c'est une entreprise qui fait du logiciel pour les entreprises et qui a un modèle de développement open source. Alors je le dis tout de suite, comme ça, c'est un modèle de développement open source et on est sur une émission qui parle de logiciels libres.
On aura l'occasion d'y revenir, oui.
Voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, ils pourront comprendre la différence entre qu'est-ce qu'un mouvement social et qu'est-ce qu'un modèle de développement qui veut se penser en dehors de toute question politique. C'est assez amusant. Donc oui, voilà, Red Hat fabrique des logiciels pour les entreprises et son modèle de développement est open source. Donc l'idée, c'est qu'en effet, on va fabriquer des produits à partir de logiciels qui sont libres et que tout ce que l'on fait est sous licence libre. Ce qui fait qu'en fait, les deux seules choses qui sont à nous, ça doit être le logo et la marque où on a une propriété intellectuelle. Ce qui est assez amusant. Donc ça, c'est la particularité de Red Hat. Et donc, mon rôle, moi, c'est de travailler dans cette équipe qui gère l'ensemble de l'engineering de travailler à améliorer le fonctionnement des équipes, donc l'équipe de leadership, donc l'équipe qui gère l'ensemble de l'engineering et l'ensemble des équipes au sein de Red Hat. Donc, en version simplifiée, c'est ça.
D'accord. Dans le sens engineering, on va peut-être préciser, c'est dans le sens, on va dire, le développement du logiciel et des produits.
C'est ça, absolument.
OK. D'accord. Alors, en tout cas, je suis ravi de t'avoir avec nous, parce que bon, on se connaît depuis longtemps. On s'est connu à un moment où tu travaillais pour l'État français, hein, dans une direction générale de modernisation de l'État, il y a quelques années. Et tu es une des premières personnes à m'avoir parlé d'agilité. Alors, pour ça qu'on avait envie d'en parler un petit peu, parce qu'en plus, alors, je vais te le dire tout de suite, quand on a préparé l'émission et que j'en ai parlé sur certains salons, notamment sur le salon, par exemple, de l'April, il y a quelqu'un qui a réagi un petit peu violemment en disant, bon, enfin, sur l'agilité, peut-être sans donner trop de détails, mais il pouvait mettre en doute l'intérêt de l'agilité, l'utilité. Donc, on va essayer de un peu éclaircir tout ça dans le cadre de cette émission, à la fois sur ce qu'est l'agilité et le lien avec le logiciel libre. Alors, ce que je te propose déjà, premièrement, c'est d'essayer de nous préciser ce qu'est l'agilité, ce que n'est pas l'agilité, parce que je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur ce sujet-là. Donc en introduction, déjà en premier sujet, l'agilité, qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que c'est un bon sujet, parce que quand généralement je commence à expliquer ce que c'est, les gens qui avaient une réaction épidermique par rapport à ça se rendent compte qu'on ne parlait pas de la même chose. Donc du coup, c'est quand même assez intéressant de le définir. Alors, comment c'est venu que l'on parle d'agile? Alors, il faut remonter un peu en arrière. Alors, du coup, on va remonter tellement en arrière que probablement certains d'entre vous ne seront même pas nés. Mais ça vaut quand même le coup d'en parler. Dans les années 90, ça faisait déjà un certain temps qu'on faisait du logiciel. Et ça faisait un certain temps que l'on essayait d'améliorer les méthodes de gestion de projet faisant du logiciel. Et ces méthodes de gestion de projet, elles étaient inspirées de quoi ? Ben, elles étaient inspirées des autres projets qu'on avait fait avant. Et qu'est-ce qu'on avait fait comme autre projet avant ? Ben, on avait construit des immeubles, on avait construit des voitures, on avait construit des choses comme ça. Et on essayait d'appliquer certains principes de ces méthodes au logiciel. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que, un peu comme aujourd'hui, la plupart des projets logiciels n'arrivaient pas à l'heure, coûtaient beaucoup plus cher que ce qui était prévu, et ne satisfaisaient pas leurs utilisateurs. Et donc, à chaque fois, on essayait d'analyser pourquoi et on essayait d'améliorer les méthodes. Et les méthodes devenaient de plus en plus grosses, de plus en plus compliquées, au point où, en fait, elles n'étaient pas tellement utilisées. Donc, on avait d'énormes corpus méthodologiques, extrêmement lourds à mettre en place, et pourtant, ça ne fonctionnait quand même pas. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ça devenait de plus en plus long de développer des logiciels, et ce qu'on essayait de faire, c'est de planifier, de tout prévoir à l'avance. Et comme les utilisateurs savaient que ça allait prendre très longtemps, ils essayaient d'imaginer tous les cas possibles, de toutes les choses dont ils pourraient avoir besoin, et de le dire dès le début, parce qu'ils savaient qu'après, ils ne pourraient plus rien ajouter. Et donc, ça devenait de plus en plus gros, de plus en plus gros. Alors, dans les années 90, il y a un certain nombre de gens qui ont dit « Non, en fait, on prend le problème dans le mauvais sens, il faut qu'on change d'approche et qu'on fasse des méthodes qu'ils ont appelées au départ des méthodes légères de gestion de projet. » Alors, c'était une super bonne idée, et il y en a plusieurs qui ont eu quelques succès en faisant ça. Donc, il y a des méthodes qui ont émergé, Extreme Programming, probablement celle qui me plaît le plus, qui m'intéresse le plus. Crystal était aussi une méthode qui était intéressante là-dessus. Et on a des concepts de ces méthodes qui existent encore et qui sont encore utilisés aujourd'hui, hein, bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est que ces méthodes légères de gestion de projet, les gens qui étaient à l'origine de ces méthodes se sont rencontrés juste au début des années 2000, en 2001, et se sont dit, tiens, c'est quoi les points communs entre toutes nos méthodes? Et à partir de ces points communs, ils ont écrit quelque chose qui s'appelle le manifeste agile. Et le manifeste agile, il parle de, on fait souvent référence à 4 valeurs et 12 principes. Donc il faut voir qu'en fait, ces gens ont fait des méthodes, ont utilisé des méthodes, et ont après regardé les points communs entre ces méthodes pour écrire un manifeste pour dire, voilà ce que l'on fait. Je vais vous lire la première phrase du manifeste agile parce que ça éclaire vraiment, à mon sens, que c'est l'agilité. Et je vais même le faire en français, et là, je suis pas habitué à ça. Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Juste en regardant ça, on voit que ces gens sont pragmatiques et ils nous disent pas qu'ils ont déjà tout trouvé, qu'ils ont déjà tout inventé et que c'est fini, on peut plus en discuter. Ils nous disent, on découvre. On le fait par la pratique et on aide les autres à le faire. Il y a cette idée de on va apprendre en partageant. Et c'est pour ça qu'on va trouver énormément de groupes, de réunions, de meet-up qui vont se passer dans différentes villes, dans différents lieux, pour partager sur ce qui marche, ce qui marche pas, ce qu'on a appris en faisant des choses et faire évoluer tout ça.
D'accord. Donc si je comprends bien, avant que tu nous parles notamment en détail des 4 valeurs et puis peut-être aussi des principes, si je comprends bien en fait, on est passé quelque part d'un développement logiciel, on va dire entre guillemets traditionnel dans les années 80-90 avec un cahier des charges, un livrable des mois après et un sorte d'effet tunnel où finalement ce qui a été livré ne correspondait pas à ce que les gens voulaient dès le départ, à une méthode de développement qui est plus itératif, plus incrémental, plus... adaptatif avec une réaction par rapport aux attentes de la structure cliente.
Exactement. Et en fait, c'est ça qu'ils ont appris dans les années 90 et c'est ça qu'ils ont voulu partager au travers du manifeste en 2001.
D'accord. Et donc, dans le manifeste, tu dis qu'il y a 4, tu nous as lu la première phrase et je précise qu'on mettra évidemment les références sur le site de l'April, april.org et sur causecommune.fm. Et j'en profite pour rappeler que le salon web, si vous voulez réagir, c'est sur causecommune.fm, bouton de chat. Et vous rejoignez sur Libre à vous. Donc, il y a, dans le manifeste, déjà, il y a 4 valeurs. C'est quoi ces 4 valeurs qui sont le socle?
Alors, ce socle, il est assez amusant parce qu'on voit quelle est la situation dans laquelle étaient les développeurs de ces méthodes dans les années 90. On le voit parce qu'ils présentent les valeurs en opposition avec autre chose. Ils disent, en fait, ces expériences nous ont amené à valoriser les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Alors, ça ne veut pas dire que les processus et les outils ont aucune valeur, mais ça veut dire que les individus et leurs interactions ont plus de valeur que ça. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans les méthodes qu'on dit parfois waterfall, etc. Waterfall, l'idée c'était ce que tu as décrit. En fait, on a une description de ce que l'on voudrait au départ, et puis après, ça vient en cascade se faire.
D'accord.
Comme un joli Gantt chart. Tu veux encore utiliser des mots superbes. Comme un joli diagramme Gantt de gestion de projet à l'époque. Donc ça représente une très jolie cascade.
D'accord.
Merci Manu. Donc les individus et leurs interactions étaient un peu écrasés par les processus et les outils qui étaient mis en place. Donc c'était un peu ça l'idée. Donc ça c'est la première des valeurs. si on regarde ce qui se passe à partir de 2001, je peux décrire toutes les valeurs ou je peux commencer à décrire ce qui s'est passé à partir de 2001 et revenir un peu en arrière après.
Ce qui te paraît le mieux pour que les gens comprennent, en fait. C'est toi l'expert, en fait, là-dessus.
Ce qui se passe à partir de 2001, c'est qu'on commence à entendre parler plus d'agile. Et quand on commence à entendre parler plus d'agile, on l'entend par différents canaux. Et il y a un canal qui va vraiment avoir énormément d'impact. C'est un bouquin qui est écrit par un des signataires du manifeste, qui s'appelle Jeff Sutherland, et qui est un des créateurs de la méthode Scrum. Et en fait, le bouquin s'appelle Faire deux fois plus en deux fois moins de temps.
On précise que Scrum, c'est une des méthodes qui permettent de mettre en place l'agilité, c'est ça?
C'est ça.
Ok.
Et en fait, cette promesse avec le titre de ce bouquin va avoir un impact incroyable. C'est faire deux fois plus en deux fois moins de temps, ça va avoir un impact incroyable. Ce qui est génial, c'est que c'est faux, mais ça va super bien marcher auprès d'un large public de gens qui aimeraient bien pouvoir faire deux fois plus avec deux fois moins d'efforts. Et ça va vraiment lancer le mouvement d'agilité, mais sur une sorte de malentendu. En fait.
Sur un prémisse faux, finalement, quelque part.
Ouais. Parce qu'en fait, s'il avait écrit apporter deux fois plus de valeur aux utilisateurs, avec deux fois moins d'efforts, je pense que tout le monde serait d'accord. Parce que je pense qu'on peut aller vers ça. Par contre, faire deux fois plus, c'est pas le but, quoi.
C'est pas le but. C'est peut-être, si je peux me permettre d'interrompre, c'est peut-être justement ce qui a aussi généré beaucoup de réticence, voire même de rejet de cette notion, c'est justement le fait de faire deux fois plus par rapport au fait que toi, tu insistes sur le fait de produire plus de valeur pour les individus.
Oui, exactement. Donc je pense qu'en fait, on est parti sur quelque chose qui était une sorte de malentendu. Et surtout, là maintenant, on est parti avec énormément de gens qui ont envie de passer à l'agilité. Quand il y a énormément de gens qui ont envie de quelque chose, ce qui se passe, c'est que c'est une très belle opportunité pour lancer des produits. Alors on a parlé de services juste avant dans la chronique d'avant, on peut dire des produits et des services. Et du coup, on va en lancer. Ça va être une grande décennie de lancement de produits et de services qui vont être merveilleux parce qu'on va sortir des tas de choses pour vendre de l'agilité. Et on va t'en vendre en fonction de tes moyens. Si tu as 1 euro, on va te trouver un truc à 1 euro. Si tu en as 10, on va te trouver des trucs à 10 euros. On va te vendre un bouquin. Si tu en as 100, on va peut-être te vendre, je sais pas, une petite formation en ligne. Puis si tu en as 1000, on peut même te vendre une certification. Tu pourrais être certifié par rapport à une de ces méthodes agiles. C'est quand même merveilleux. Deux jours, et puis tu as un badge que tu peux mettre sur ton CV. C'est quand même un truc super.
Et ça, c'est la décennie 2000, donc.
Bah ça, c'est la décennie 2000 et un peu après. En gros, ça va continuer jusqu'à peu près 2015-2016, où on va continuer à avoir cette énorme demande d'agilité, cette énorme demande d'agile, et on va avoir tous ces produits qui vont arriver jusqu'à des niveaux assez incroyables où les gens veulent transformer l'entièreté de leur organisation pour être agile. Et quand tu écoutes ce qu'ils disent, tu te dis, ah oui, ils veulent être agiles, ils veulent être plus réactifs par rapport au marché, plus souples. Et en fait, ils sont passés où, les individus et leurs interactions, dans tout ça? Elle est passée où, l'adaptation au changement, quand on fait des plans et des trains et des lancements de trucs qui sont assez énormes? En fait, on a mis un peu de côté. Et si on a du mal à retrouver les valeurs initiale du manifeste, dont ces grandes méthodes et ces grands frameworks sur lesquels on peut être certifié.
Framework, c'est un cadre de travail, on va dire.
Oui, excusez-moi.
Non, mais c'est un exercice aussi pour moi, comme ça, il faut... En tout cas, c'est intéressant de voir effectivement comment tu replaces finalement les valeurs et les individus au centre de l'agilité, alors que finalement, ce qui a été vendu par beaucoup de gens, c'est pas du tout ça.
Alors du coup, allons vite regarder les trois autres valeurs. Donc on a dit les individus et les interactions plus que les processus et les outils, ça nous donne quelque chose. On dit ensuite des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Alors ça fait référence à quoi? Ça veut dire que j'écris des spécifications, qu'elles soient générales, détaillées, techniques, ce que l'on veut, et que j'ai 250 pages de spécifications, je vais faire énormément de travail, je vais être très actif à écrire des choses. Mais j'ai pas beaucoup de logiciels. Et quand mes utilisateurs lisent des spécifications, ils interprètent les choses comme ils le veulent. C'est les basiques de la communication. Si je leur montre un logiciel opérationnel qu'ils peuvent jouer avec, ils vont comprendre des choses. Et il y a des tas d'exemples qui sont hyper évident quand on les voit et quand on voit le logiciel, mais quand on lit les specs, on comprend pas tous la même chose. Donc, je vais vous donner un exemple tout bête, un truc de design de site web. L'équipe de design qui s'occupait de l'univers de la marque avait décidé que, avant de rentrer dans une catégorie du site web, il y aurait une petite animation graphique qui durait 20 secondes, qui permettrait aux utilisateurs d'entrer dans l'univers de la marque. Alors, si vous avez déjà été sur un site web dans votre vie, vous savez que 20 secondes d'animation avant d'aller quelque part après avoir cliqué, c'est peut-être exagéré. Évidemment, dans les specs, ça se voyait pas. Et les designers qui ont travaillé sur l'animation de 20 secondes, qui a quand même coûté une fortune, pour la première catégorie, quand ils l'ont présenté à la première démo, les gens qui l'avaient demandé se sont rendus compte immédiatement qu'il y avait un problème. Et évidemment, ils savaient très bien qu'ils l'avaient écrit dans les specs, qu'ils l'avaient validé, etc. Donc en fait, là, l'idée, c'était de collaborer pour savoir c'est quoi la durée qui est acceptable. Et là, c'est intéressant de travailler et de collaborer directement avec le client, plus que de négocier et de dire « Attends, c'est écrit dans les specs, ben nous, on te les fait tous comme ça, puis tu te débrouilles. » quoi. Et c'est ce qui nous permet d'introduire la troisième valeur, c'est la collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle. Là, c'était évident pour l'équipe que, en fait, fabriquer des animations de 20 secondes qu'on n'utiliserait jamais, c'était idiot. Collaborer avec le client pour savoir c'est quoi la bonne durée d'une animation qui nous permet de rentrer dans l'univers. Est-ce qu'on doit l'afficher à chaque fois ou est-ce qu'on l'affiche que la première fois, etc., etc. Il y avait des tas de questions qui pouvaient se poser. Bah, quand on travaille avec le client assis à côté de vous, c'est beaucoup plus facile de le faire. Donc collaborer avec le client, c'est plus important que de faire tout ce qui est délivré, tout ce qui est écrit dans les specs. La dernière de ces valeurs, c'est l'adaptation au changement plus que le suivi du plan. Je viens de l'évoquer avec cet exemple. C'est plus intéressant de s'adapter au changement que de suivre le plan. Dans l'exemple que je vous donne, il y avait un contrat avec d'énormes pénalités de retard. Tout était cadré, très serré. Ça coûtait très très cher de faire ce site. Pourtant, ils ont trouvé le moyen de s'entendre et de s'adapter au changement. Il y avait quand même quelqu'un qui s'occupait de faire les révisions contractuelles toutes les deux semaines. C'était assez terrible pour cette personne. Mais c'était intéressant de voir que même dans un cadre très contraint, ils ont réussi à aller vers plus de collaboration et plus d'adaptation au changement. Et donc voilà les quatre valeurs. C'est cette idée que, en fait, on a toujours un peu de mal à se comprendre et que pour collaborer et faire collaborer des gens qui ont différentes fonctions, qui viennent de différents horizons, c'est pas forcément si facile. Qu'il faut avoir cette intention de le rendre possible. Et c'est pas dans le contrôle qu'on va la fabriquer, c'est dans chercher cette entente et accepter ces feedbacks, ces retours directs du client et s'adapter à tout ça.
D'accord, donc je vais répéter les quatre valeurs si je les ai bien notées. Donc c'est collaboration avec le client plutôt que négociation de contrat, c'est la réaction au changement plutôt que le suivi d'un plan, et c'est un logiciel ou en tout cas un produit plutôt fonctionnel plutôt qu'une documentation complète. Et la quatrième, c'est les personnes et les individus, enfin les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils. C'est les quatre valeurs.
Oui, absolument.
Et donc, alors je précise à William en régie, j'ai un retour bizarre, grésillement dans le casque. C'est pas très grave, hein, c'est juste si ça passe à l'antenne. N'hésitez pas à signaler sur le salon web. Tout ceci, en fait, il y a une notion qui semble apparaître, hein, c'est celle de changement, de transformation. Comment on peut initier un changement et une transformation pour se mettre à mettre en place, en action, ces quatre valeurs de l'agilité et puis les principes qui vont avec?
Alors, la question, c'est d'où on part, en fait. D'où on part et où est-ce qu'on veut aller? Un des points importants, c'était de se dire, on s'intéresse aux individus et leurs interactions, on va collaborer avec une équipe qui a diverses compétences et diverses perspectives, et on va collaborer avec le client, avec les utilisateurs eux-mêmes du logiciel. Et on part d'un principe que les utilisateurs du logiciel, ce ne sont pas les développeurs du logiciel. C'est un des points qui est toujours compliqué. Quand l'utilisateur du logiciel, c'est le même que le développeur du logiciel, on peut prendre des raccourcis qu'on ne peut pas prendre quand on a affaire à un utilisateur pour qui on est relativement proche de la magie quand il utilise quelque chose. Il ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc il y a ces choses-là qui viennent dedans. Alors, comment on met en place les choses? Je pense que on met en place les choses en reconnaissant en s'accordant sur l'objectif que l'on veut atteindre. Et ça c'est vraiment un truc important. C'est là où le deux fois plus avec en deux fois moins de temps est pas suffisant. Il faut s'accorder sur l'objectif que l'on va atteindre et quel impact ça va avoir pour les différentes parties prenantes, pour les gens qui sont impliqués là-dedans. Alors on pourra peut-être y revenir. Ce qui me paraît assez intéressant, c'est qu'à partir de 2015-2016, certains des signataires du manifeste agile vont dire que l'agile est mort. C'est-à-dire après en gros 15 ans de produits et de services vendus, de certifications, de formations, de tas de trucs, de grandes transformations, de grands cadres de travail vendus ils vont dire c'est mort. En fait, ça n'a pas marché, on a échoué. C'est devenu de nouveau très très compliqué, et c'est devenu de nouveau quelque chose qui n'aide pas les gens. Donc il y a une partie des signataires qui vont aller dans ce sens-là, il y a une autre partie des signataires qui vont dire non, mais en fait, c'est pas ça en fait le problème. Le problème, c'est ce qu'on en a fait, c'est cette productisation qu'on en a fait qui est pas bonne. Mais si on revient aux valeurs, on peut vraiment permettre aux gens, aux personnes de vraiment collaborer. Et en fait, c'est en revenant aux valeurs et aux principes qu'on peut permettre aux gens de collaborer. Et c'est D'accord. là qu'on trouve, c'est vraiment intéressant. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait après. Et c'est pas tellement les différentes pratiques et outils qui existent, c'est de retourner aux valeurs et de se poser les questions. Et si c'est un exercice que peuvent faire les gens, c'est d'aller voir le manifeste pour le développement agile des logiciels et de regarder les 12 principes sous-jacents au manifeste et de se poser la question, bah, nous, dans notre équipe, quelles sont les choses que l'on fait déjà et quelles sont les choses avec lesquelles on est d'accord et quelles sont les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ou quelles sont les choses qu'on aurait envie de faire et qu'est-ce qu'on pourrait essayer pour aller dans cette direction-là. Et je pense que c'est là qu'on peut initier un vrai changement, qui est un vrai changement durable.
D'accord. Et en fait, c'est ces règles et ces principes, c'est finalement plus des sources d'inspiration que des règles à suivre formellement. Ça me fait penser à une méthode de développement qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années, qu'on en a sans doute beaucoup. C'est Getting Things Done, GTD. Alors, je sais plus comment ça se traduit en français. Là, c'est moi qui m'auto-piège. Et que les choses soient faites avec des principes, de très nombreux principes, et en fait tellement trop de principes à suivre strictement que ça n'a pas fonctionné, alors qu'en fait c'est plutôt de l'inspiration, c'est plutôt des sources d'inspiration, et que chacun doit avoir sa propre vision et sa propre, quelque part, interprétation de l'agilité, en gros. C'est bien ça ?
Ouais. Oui, alors si je prends un autre exemple qui est un exemple classique, il y a des raccourcis que certains vont faire en disant bah, l'agilité c'est les gens qui collent des post-it sur les murs.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, c'est un bon truc. Du coup, il faut mettre un petit R derrière post-it, hein, sinon c'est pas bon. Mais est-ce que c'est vraiment des gens qui vont coller des petits papiers autocollants sur des murs ? Alors pourquoi certains font ça ? Pourquoi ils font ça ? C'est que ils trouvent pratique, comme ils sont une équipe colocalisée qui travaille dans la même pièce, d'avoir sur un mur leur plan de travail. Et de savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qui est en cours, et qu'est-ce qu'ils ont terminé, parce que c'est quand même sympa de célébrer ce qui est terminé. Et d'avoir ça visuellement pour tous en permanence, c'est quand même super pratique. Donc voilà pourquoi ils font ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire aussi, par exemple, le matin, ils vont se réunir tous en face de ce board, et ils vont partager ce qu'ils ont fait hier, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont comme difficulté, en quoi ils auraient besoin d'aide, et qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va leur permettre? Ils ont un temps de synchronisation qui leur permet de vérifier qu'ils sont tous toujours alignés dans la même direction, et puis d'identifier les besoins de collaboration. Alors, là, toi, tu as une difficulté avec ce truc-là. Moi, je connais bien ce domaine. Peut-être qu'on peut faire un peu de pair programming pour essayer de trouver. Ou peut-être que là, il y a une technologie qui est complexe. Toi, tu as travaillé à essayer de l'apprendre et à essayer de comprendre. Peut-être qu'en fait, cette fonctionnalité, on devrait faire du mob programming, donc travailler tous ensemble, un clavier et toute l'équipe, avec un écran, pour travailler à mettre en place cette fonctionnalité. Comme ça, on va apprendre cette nouvelle technologie, cette nouvelle interface de programmation, etc., etc. Donc, on va identifier, grâce à ce temps de synchronisation, des opportunités de collaboration, des opportunités d'apprentissage, des opportunités de s'entraider.
D'accord.
Ça marche si je suis dans une équipe colocalisée.
Oui.
Et oui. Donc là, je colle des post-it sur des murs et je me réunis devant un board, et ça marche super bien. C'est des pratiques qui sont super pour rester synchronisé. Si je suis une équipe distribuée, ça n'a pas de sens. Et pourtant, je pourrais aussi avoir un temps de synchronisation.
Ok, je propose c'est qu'on va en parler de la suite après la pause musicale. On va se faire une petite pause, on va écouter El Refé par San Blas Posse. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Que tire la piedra quien no haya soñado con matar a su jefe con sus propias manos. Levanta la mano, se has imaginado al cabrón de tu jefe lleno de gusanos. Si la vida es un sueño, los sueños, sueños son. Caminar hacia ellos es nuestra razón. Si la vida es un sueño, los sueños, sueños son. Búscate una cuartaba y ponte en acción.
D'écouter El Refé par San Blas Posse, disponible sous licence libre Creative Commons, partage à l'identique. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. J'espère que vous avez dansé comme nous, en tout cas moi j'ai dansé. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April, et nous discutons actuellement avec Alexis Monville de la société Red Hat du thème de l'agilité du logiciel libre juste avant la pause musicale. Ah, je précise que vous nous rejoignez aussi sur le salon web de la radio, causecommune.fm, bouton de chat, et vous allez sur le salon Libre à vous, il y a des gens qui interagissent et vous pouvez poser des questions ou faire des réactions. Donc je disais, juste avant la pause musicale, nous parlions d'initiation au changement, à la transformation avec les méthodes agiles, et Alexis nous parlait notamment de la question de la synchronisation, notamment dans les équipes distribuées, c'est-à-dire les équipes qui ne sont pas au même endroit, et ce qui va nous permettre de venir un petit peu un moment avec le logiciel libre, hein, comment certaines, on va dire, approches agiles peuvent bénéficier au logiciel libre. Mais bon, je voudrais relancer le sujet sur la synchronisation en équipe distribuée. C'est quoi les bonnes pratiques que l'agilité ou peut-être les méthodes, les conseils que l'agilité propose pour ces équipes distribuées? Alexis Monville.
Merci Frédéric. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a des gens qui demandent des photos de toi en train de danser sur la musique, hein, sur le salon.
Donc... J'ai vu.
Ok, j'avais peur que t'aies pas vu, donc c'est important. Ce qui est important quand on a une équipe distribuée, c'est de partager des choses un petit peu sur ce qui se passe dans son environnement à soi, qui est souvent son environnement chez soi. Donc, merci à tous de nous accueillir chez vous d'ailleurs, puisque a priori on est tous chez nous en ce moment. Ce qui est un autre sujet qu'on pourra aborder. Alors, les pratiques, si on regarde les principes et les valeurs du manifeste agile, il n'y a pas de pratiques qui sont recommandées pour la synchronisation. On dit juste que, bah, en fait, ce serait bien si vous travaillez tous les jours, quotidiennement, ensemble.
D'accord.
Comment ? Alors après, il y a des équipes qui vont trouver des façons de faire. Et ce qui est amusant, c'est que, en fonction des équipes et des gens, en fonction de qui ils sont, ils vont trouver des façons différentes de faire. Alors, j'ai vu des équipes qui sont vraiment distribuées sur énormément de time zones. Et en fait, ils ont très peu de zones de recouvrement pour toute l'équipe, voire pas du tout. Alors, pour certains, la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'avoir deux rendez-vous de synchronisation dans la journée avec des gens qui font les deux et qui font le lien entre les différentes personnes des différents fuseaux horaires. Bon, ok, si ça marche pour eux, c'est chouette. Il y a d'autres équipes qui se sont dit, mais en fait, non, on peut pas avoir de période de recouvrement. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va avoir ils ont un fichier, souvent un etherpad, et ils vont utiliser cet etherpad comme leur lieu de synchronisation.
Alors, on dit qu'un etherpad, c'est un sort de bloc-notes en ligne où tout le monde peut modifier le texte sur une page web sans. Voilà.
Oui, absolument. Donc ils vont utiliser ça va être leur point de rendez-vous, et ils vont répondre au même genre de questions que l'on a évoquées tout à l'heure pour les gens qui se réunissaient devant leur tableau avec des étiquettes collantes. Donc ces équipes vont trouver des moyens de faire des choses qui sont soit la synchronisation, soit la collaboration. Ben oui, quand on fait du pair programming et qu'on est dans le même bureau, on peut s'asseoir derrière le même clavier, le même écran. Quand on travaille chacun de chez soi, il va falloir trouver d'autres techniques pour le faire. Il y a plein de techniques pour faire du pair programming.
Attends, explique juste en deux mots ce que c'est que le pair programming, s'il te plaît.
Alors, le pair programming, on va avec deux développeurs qui vont travailler avec un clavier, un écran.
D'accord. Ah oui.
Okay. Alors, généralement, quand on est un manager, on a du mal à accepter que ça va être vraiment super comme idée. mais quand on a déjà essayé de faire quoi que ce soit à deux plutôt qu'à un, on comprend vite quel va être le bénéfice. La meilleure approche que j'ai pour apprendre à des managers que c'est pas mal de faire comme ça, c'est quand ils ont un courrier difficile à écrire ou une note difficile à écrire ou un email difficile à écrire, c'est de se mettre à deux pour l'écrire. Et on va voir qu'en fait, on va écrire quelque chose qui est bien meilleur, plus vite. Et pourquoi ? Parce qu'on a cette boucle de feedback, cette boucle de retour, ces yeux additionnels qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite.
D'accord. Alors, je vois quand même que le temps file et que je voudrais quand même que c'est une mission quand même qui est consacrée aux libertés publiques. On parle un peu du parallèle que tu peux y faire avec les logiciels libres et puis aussi la question de comment certaines approches agiles peuvent bénéficier aux logiciels libres. Déjà, est-ce que tu vois un parallèle, toi, entre l'agilité et le logiciel libre, vu de ton expérience sur les deux sujets, d'ailleurs ?
Alors, il y a déjà rien qui les oppose, en fait. Ça, c'est déjà un truc qui est important. Il y a un sens de... Il y a l'importance des utilisateurs, elle est importante des deux parties. Je sais que satisfaire l'utilisateur, c'est une notion un peu bizarre souvent, mais le fait que les utilisateurs et les développeurs travaillent ensemble et qu'on va s'intéresser à satisfaire leurs besoins, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est quelque chose qu'on retrouve dans le logiciel libre en se disant bah, je vais avoir un logiciel qu'on va pouvoir adapter à nos besoins. Et ça, c'est intéressant. Il y a un des points que l'on voit sur les premiers logiciels libres qui ont vraiment eu beaucoup de succès, c'est que les utilisateurs étaient les développeurs. Donc, ils n'avaient pas ce problème d'avoir cette distance entre l'utilisateur et le développeur. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on va trouver dans l'approche agile qui aident à créer ce pont entre les utilisateurs qui ne sont plus les développeurs du produit et qui vont aider les développeurs qui veulent faire du libre, à se rapprocher de leurs utilisateurs. Donc ça, c'est un deuxième pont que je vois.
Juste préciser sur ce pont-là, c'est il y a une distribution logicielle libre bien connue qui s'appelle Debian GNU Linux, et qui a un contrat social, et dans le contrat social, là, je l'ai sous les yeux, le quatrième point, c'est nos priorités sont nos utilisateurs et utilisatrices et les logiciels libres. Donc ouais. Ça regroupe ce que tu viens de dire.
Exactement. C'est pour ça que je ne vois pas d'opposition, je vois que des points qui pourraient les rapprocher. Et quand on s'intéresse après aux pratiques, aux différentes méthodes, il y a plein de choses qui sont intéressantes quand on se dit bah oui, mais c'est quoi un utilisateur ? C'est quoi un utilisateur quand on regarde un peu les idées, qu'est-ce que c'est que l'impact mapping, les cartes d'impact, par exemple, introduit par Goiko Hajik, ou qu'est-ce que c'est qu'une user story. Il y a des choses qui sont très intéressantes à regarder dans ce domaine-là. Quand on regarde les pratiques d'ingénierie qui sont souvent associées aux méthodes agiles, comme le TDD, comme le TDD, c'est un bon exemple. Donc, comment on traduit TDD? Test Driven Development. Du développement
Piloté par les tests.
Piloté par les tests, voilà. Ça, c'est des pratiques qu'on retrouve dans pas mal de logiciels libres aujourd'hui, parce que c'est quand même vraiment beaucoup plus pratique de comprendre, de vraiment comprendre la fonctionnalité en fabriquant le test qui va permettre de la développer. Et ça va vraiment permettre de créer le minimum de code pour satisfaire la fonctionnalité. Ce qui est un truc important, la simplicité, parce que la simplicité, ça va aider à maintenir et ça va aider à modifier le code par la suite.
D'accord. Et donc, dans le développement logiciel libre, comment certaines approches agiles peuvent bénéficier au logiciel libre en général, donc au développement, aux utilisateurs et aux utilisatrices?
J'ai pris l'exemple de comment on décrit les utilisateurs, donc avec différents personas. Identifier les différents utilisateurs d'un produit, ça permet de plus les confondre et de pas être confus sur, par exemple, une confusion classique, c'est celui qui va opérer le logiciel, donc qui va s'occuper de gérer le logiciel quand il tourne, et celui qui va utiliser le logiciel à un autre niveau. C'est pas les mêmes, ils n'ont pas besoin des mêmes choses. Il y en a un qui va s'intéresser à regarder le moteur pendant qu'il tourne, et il y en a un qui va utiliser le résultat du moteur. C'est pas la même chose, et il n'a pas besoin des mêmes choses. C'est comme votre mécanicien, quand il regarde votre voiture, il n'a pas besoin de regarder les mêmes choses que vous quand vous la conduisez. Mais c'est intéressant de distinguer les deux utilisateurs, parce que si on n'en a qu'un, on va donner à celui qui conduit la voiture des tas d'indications qui vont lui servir à rien. Et même si on a encore des indications de température, de d'eau du moteur ou d'huile du moteur sur certaines voitures, il y a assez peu de gens qui les utilisent, à part quand ça devient rouge. Donc c'est la même chose dans les logiciels. Donc identifier les personas et comprendre qu'est-ce qui va vraiment avoir de l'impact pour eux, je pense que ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc ça, c'est des petites pratiques, mais dans les principes, ça va être se dire je vais présenter un résultat qui fonctionne et je vais demander aux gens de me dire ce qu'ils en pensent. Alors ça rejoint pas mal de principes du logiciel libre, mais on le voit parfois, on le sent parfois un peu oublié dans certains logiciels où les gens essayent d'avoir un gros impact et de sortir un gros truc d'un coup. Et en fait, on n'est pas très sûr que ça résolve bien le problème que l'on voulait résoudre.
D'accord. Et est-ce que la question, tout à l'heure, tu as parlé des user stories, donc c'est les récits d'utilisation, c'est peut-être quelque chose qui peut être important aussi dans le cadre du logiciel libre, hein, parce que donc en fait, c'est une histoire d'utilisation, c'est comment une personne va décrire ce qu'elle a besoin et comment ensuite derrière ça va être mis en œuvre. Mais la personne décrit le besoin. Ouais. Et comme tu parlais tout à l'heure, effectivement, des utilisateurs et des utilisatrices, l'important, c'est que les logiciels soient utilisés par ceux pour lesquels ils sont destinés. Quoi.
Mmh. Oui, et ça a deux bénéfices. Y a un premier bénéfice, c'est qu'on va s'intéresser à l'impact que ça va avoir pour l'utilisateur. C'est-à-dire, avant de dire ce que l'on veut faire, c'est-à-dire la tâche ou la fonctionnalité que l'on veut avoir, on va s'intéresser à quel est l'impact pour l'utilisateur. Si je prends un exemple de tout à l'heure qui était donné dans la chronique du début, moi en tant qu'utilisateur, je voudrais pouvoir mettre de côté une page web pour pouvoir la lire plus tard. Ouais. De quoi j'ai besoin pour faire ça? Est-ce que j'ai besoin d'un service centralisé quelque part, un endroit où je ne sais pas où il est, pour pouvoir faire ça? Peut-être que oui, hein, ou peut-être que non. Mais la fonctionnalité elle-même, elle n'a aucun rapport avec mon besoin. Et il va y avoir des tas de façons de répondre à mon besoin. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant de regarder vraiment l'impact pour l'utilisateur d'abord, avant de se poser la question de quelle fonctionnalité je vais faire. Parce qu'après, on peut regarder pour les autres parties prenantes, par exemple pour le constructeur du logiciel ou pour l'entreprise qui va gérer le logiciel, c'est quoi les bénéfices pour eux d'une certaine fonctionnalité. Et on va pouvoir comprendre pourquoi certaines entreprises, elles font certains choix. Mais pour ça que moi je recommande de vraiment regarder l'impact pour l'utilisateur d'abord. Donc ça, c'est une pratique importante. Ouais.
D'accord. Toi, tu as commencé l'agilité, enfin, tu as commencé l'agilité, notamment dans une société qui était quoi, qui a peut-être 10 ou 15 personnes, si je parle des Novances.
Ouais.
Maintenant, toi, tu es chez Red Hat, où il y a quelques milliers de personnes, je pense. Mm-hmm. Finalement, l'agilité, première question, c'est à la fois pour les grandes équipes et pour les petites équipes. Et deuxième question, un peu liée, qu'est-ce que ça change de faire de l'agilité entre une petite équipe, telle que tu as pu le faire chez Novance ou dans d'autres structures, et dans une grande équipe, telle que Red Hat, en fait?
En fait, je pense que le point important, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas très doué pour travailler à plus d'un certain nombre. Et je pense que l'être humain n'est pas très vieux en termes d'évolution. Ce fait qu'on a, on a des fonctions qui évoluent lentement. Il y a des choses qui sont câblées depuis longtemps en nous. Et donc, quand on travaille quand on veut travailler de manière proche avec des gens, notre groupe de travail, il est généralement pas plus de 12 personnes. Et ça rejoint un peu la taille d'une bande que l'on pouvait avoir dans les premiers humains quand ils se baladaient pour faire de la cueillette et de la chasse. Et les tribus, elles faisaient à peu près une centaine de personnes. Et en fait, ces tailles d'équipe, on retrouve ça à l'échelle des entreprises. Et c'est aussi pour ça que quand les entreprises grandissent, souvent on entend les startups dire ah oui, là 15 personnes, oh là là, c'était compliqué, il a fallu complètement réinventer l'organisation. Et on dit quand même 15 personnes, c'est pas grand, quoi. Mais en fait, on vient de dépasser la taille de la bande initiale. Et puis alors, ils vont redire la même chose quand ils vont dépasser 30, 50, puis quand ils vont arriver à 100, et quand ils vont arriver à plus de 100, ils vont dire bah ouais, c'est comme si on était une grande entreprise maintenant. Il n'y a pas de différence, en fait. Mais en fait, dès qu'on dépasse la taille de la tribu, ça devient compliqué de se connecter avec les gens qui sont à côté. Et pourquoi? Parce qu'on n'a plus forcément la même notion d'appartenance et de contribution à ce que la tribu dans son ensemble essaie de faire. Donc quand on parle d'agilité, on peut en parler à différentes tailles. Mais moi, je crois que ce qui marche vraiment, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on en parle dans l'équipe avec laquelle on collabore toute la journée, en fait. C'est là où ça marche vraiment. Et après, il faut avoir conscience que y a d'autres équipes autour de nous qui vont essayer d'aller dans un but commun. Et il faut se poser la question, en fait, c'est quoi ce but commun? Et c'est là qu'il faut avoir des objectifs de plus grand niveau qui vont sûrement être à l'échelle de la tribu, qui vont permettre à toutes les équipes de se dire, OK, alors si c'est ça nos objectifs au niveau de la tribu, comment nous, notre équipe, on va contribuer à ça? Et c'est ça qu'on essaie de mettre en place, en fait. Alors, on essaie de présenter des objectifs, d'avoir des grands résultats clés qui ont un impact sur les utilisateurs, et pour permettre à toutes les petites équipes de se dire, OK, moi, comment je contribue à ça? Et puis, de publier ce qu'elles vont faire. Voilà, nos contributions à ça, ça va être ça. Ça va être ça, cette proposition. Et on a des connexions à faire avec d'autres équipes parce que on a des dépendances entre nous. Donc, il faut qu'on aille dans le même sens. Mais on va s'organiser pour gérer ces dépendances. Donc, même si on fait ça, peut aller à n'importe quelle taille.
D'accord. Et donc, même chez Red Hat, on reconstruit quelque part des petites tribus, alors, si j'ai bien compris.
Ouais. En fait, on se rend compte que dès qu'on dépasse la taille d'une tribu, c'est compliqué. Donc, en fait, il faudrait mieux avoir deux tribus. Après, on n'utilise pas forcément ce vocabulaire-là. Hein. Je l'utilise là parce que je trouve que c'est plus pratique, mais c'est plus parlant. Mais c'est un peu ce qu'on retrouve.
D'accord. Alors, comme tu parles de petit nombre, ça me fait penser à une question avec l'actualité. Comment on vit l'agilité ou comment l'agilité? Est-ce que l'agilité peut apporter quelque chose dans cette période de confinement de la population, là, mondiale quasiment, parce que, enfin, pas totalement mondiale, mais il y a quand même beaucoup de pays où il y a du confinement maintenant. Dans ce contexte-là, voilà, c'est quoi l'agilité?
En fait, on va revenir à la première valeur du manifeste agile. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les individus et leurs interactions sont plus importantes que les processus et les outils. Ça veut dire que les processus et les outils qu'on a en place aujourd'hui, ils doivent servir les individus et leurs interactions. Moi, j'étais épaté de voir le nombre de gens qui m'ont contacté sur la messagerie instantanée, par messagerie électronique, pour me parler, pour me demander juste comment ça allait, quoi. Et du coup, ça, je trouve ça magique. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et puis du coup, on a utilisé aussi la technologie pour faire des trucs où mes enfants sont à Paris pendant que moi je suis à Bordeaux. On essaie de faire des dîners en ligne avec eux et c'est plutôt marrant.
Oui, j'ai vu ça, ouais.
On fait des dîners avec des amis ou des apéros avec des amis. On en a un tout à l'heure là. Et ça, je trouve ça plutôt marrant de se dire, bah oui, on est séparés physiquement, mais il faut pas qu'on oublie qu'on est des êtres qui ont besoin de cette interaction sociale. Même si je suis un peu introverti, j'ai besoin de cette interaction sociale, et qu'à un moment donné, bah, il faut s'organiser pour le faire. Et je pense que c'est cette idée que la collaboration, elle n'est pas automatique, en fait, elle doit être intentionnelle, et que pour la mettre en place, il faut mettre en place un sorte de cadre de collaboration, et de temps à autre, il faut réfléchir à ce cadre de collaboration pour essayer de voir ce qui fonctionne et voir ce qui pourrait être amélioré, et de faire évoluer ce cadre de collaboration. Et je pense que ça, c'est un des grands points de l'agilité, c'est de se dire, bah, en fait, à intervalles réguliers, on va réfléchir à ce qui marche, ce qui marche pas, et on va l'améliorer. C'est intentionnel, la collaboration.
D'accord. Je précise qu'il va nous rester à peu près 5 minutes maximum. Alors, je précise aux gens qui écoutent, si vous entendez des bruits bizarres derrière, c'est mon fils qui fait du hautbois. Je ne sais pas si ça s'entend, en fait, même si c'est à côté de moi. Donc, avant les questions de conclusion, je crois que tu voulais parler un petit peu de diversité et d'agilité. C'est bien ça?
Oui, en fait, c'est un point qui me préoccupe beaucoup. On se rend compte depuis plusieurs années qu'on a un problème dans l'informatique en général et dans le logiciel libre en particulier, c'est sur la diversité des gens qui s'intéressent au sujet et qui contribuent. Et on le voit dans les entreprises de la technologie aux États-Unis et dans le monde entier, que bah, on a un gros problème de diversité. Et alors on met souvent en cause la formation, c'est-à-dire en disant bah ouais, s'il y a 80% d'hommes dans les formations de computer science, forcément il peut pas y avoir moins de 80% d'hommes dans les entreprises ou de tech. Ce qui est un problème, c'est que c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a quand même maintenant plusieurs autres universités où ils sont à 50-50. Et pourtant dans les entreprises de la tech, il y a des entreprises qui sont à bien moins que ça, et dans certaines communautés du libre, on est encore à moins que ça. Et ce problème de diversité, alors là je parle du genre, mais il y a d'autres aspects de la diversité qui sont importants, ben, c'est un vrai problème pour la collaboration, pour l'innovation. Et c'est un point sur lequel il faut vraiment être aussi intentionnel, c'est de se dire, ben, qu'est-ce que je vais faire pour changer cet état-là? Qu'est-ce que je vais faire pour changer cette situation? Et qu'est-ce que je vais faire pour être plus inclusif, pour inclure mieux les gens qui sont différents de moi? Parce que si on est différent, on va avoir des points de vue différents, on va penser différemment, et si on pense différemment, ça va sûrement frotter un peu, mais on devrait en ressortir des choses plus intéressantes.
D'accord, merci. Alors les deux dernières questions, la première, bah, question assez traditionnelle maintenant, c'est pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir de cette émission en moins de 2 minutes, Alexis ?
La collaboration, c'est intentionnel. Et si vous voulez initier un changement, un exercice que je vous recommande, c'est d'aller voir les principes sous-jacents au manifeste agile et de vous poser la question, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Et quand vous vous êtes posé cette question, allez voir vos collègues dans votre équipe en vous disant, bon alors, qu'est-ce que ça représente pour nous? Et quel est celui sur lequel on a envie de tenter quelque chose, d'expérimenter quelque chose? Je dis pas que ça va forcément être incroyablement un succès, mais vous aurez au moins expérimenté quelque chose, et ça, c'est un premier pas vers le changement. Donc ça, ce serait vraiment le truc que je voudrais retenir, c'est on peut expérimenter, on peut essayer des choses, et allons-y. Et c'est par nous que commence ce changement. Donc ça, c'est moins de 2 minutes, donc c'est bon. C'est un gros truc que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est par nous commence le changement. Et c'était quoi ta deuxième question? J'ai oublié.
Je l'ai pas encore posé. C'est la question bonus. Est-ce que tu aurais des conseils de lecture, de séries ou de podcasts pour les personnes qui nous écoutent, mais pas du tout forcément en lien avec le logiciel libre ou avec l'agilité, un coup de cœur à partager?
J'ai deux livres que j'ai bien aimés. Alors il y en a que j'ai lu récemment que j'ai bien aimé. Il y en a un qui s'appelle The Art of Gathering de Priya Parker. Et c'est alors je sais que proposer un bouquin sur l'art de se réunir à une époque où on peut pas se réunir, c'est un peu paradoxal. Mais c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a rappelé un dîner TEDx. D'ailleurs, ça m'a amusé. J'ai écrit un article là-dessus. J'ai mis une photo de toi dedans.
Oui, j'ai vu.
Donc ça, c'est un bouquin super intéressant parce que ça nous rappelle les principes de comment on se réunit et pourquoi on se réunit. Et ça donne envie de le faire en ligne, même quand on peut pas le faire, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant. Il y a un deuxième bouquin que j'ai bien aimé qui s'appelle Talking to Strangers de Malcolm Gladwell. Et j'ai bien aimé ce bouquin parce que il y a beaucoup de gens qui vous disent que instantanément ils sont capables de se faire une opinion sur les gens et qu'ils savent comment sont les gens. Ils savent les lire instantanément. Et Talking to Strangers explique vraiment bien pourquoi c'est pas vrai. Et ça, c'est super important. Parce que du coup, ça permet de se dire j'aime pas trop cette personne, je devrais faire un petit effort pour essayer de la connaître un peu mieux. Parce que c'est probablement là qu'est le problème. Et du coup, c'est intéressant. Et puis, podcast. J'ai un podcast que j'aime beaucoup, qui m'amuse énormément. Ça s'appelle Common Line Heroes. Je trouve que Sharon Yed-Barrett fait un boulot extraordinaire de narration. Ça parle d'ailleurs un peu des origines du logiciel libre au départ. La quatrième saison est sur le matériel. Donc, le deuxième ou le troisième épisode est très drôle, parce qu'il parle du Alter 8080. Et ça parle aussi du moment où le logiciel va devenir quelque chose qui est quelque chose qu'on pourrait peut-être vendre. Et je trouve ça très intéressant de se replacer au début de l'histoire où le logiciel n'est pas encore soumis au copyright, donc où c'est pas encore arrivé en fait. Et ça, je trouve ça très amusant. Donc je vous recommande cet épisode-là, entre autres, de Common Light Heroes.
D'accord. Écoutez, on mettra les références sur le site de l'april.org et sur le site de causecommune.fm. Et pour les personnes qui veulent prendre et relire les valeurs et les principes agiles dont vient de parler Alexis, la page Wikipédia, les listes, donc méthode agile, page Wikipédia, vous trouverez la lecture conseillée par Alexis Monville. Ben écoute, Alexis, je te remercie grandement de cette participation à cette émission donc à distance. Donc je rappelle qu'Alexis, tu es membre de l'équipe de leadership et d'engineering chez Red Hat. Et puis je te souhaite une belle fin de journée et puis à bientôt.
Merci beaucoup Frédéric, à bientôt, merci à tous.
Merci à toi.